grande voile, de forme triangulaire, s'établit le long du mât.
Débat et société.
Actualité étudiante et associative.
Du lundi au jeudi, 18h-18h30.
Voguez sur les ondes de l'information locale avec l'Optimiste.
La quasi-quotidienne de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve ce soir pour un nouvel Optimiste solidaire avec comme toujours le mardi la chronique des folies angevines, assurée aujourd'hui par Germain. Pour l'interview, notre bateau d'actualité locale accueille à son bord Dorine, bénévole à l'association Angevine Asile et Partage. Germain vous embarquera ensuite avant l'heure dans l'ambiance de Pâques, prêt pour le départ, alors hissez la grand voile. On commence donc notre émission avec vous, Dorine. Vous êtes bénévole à l'association Asile et Partage. Bonsoir.
Bonsoir.
L'association Asile et Partage est un petit groupe de militants qui soutient au quotidien une quarantaine de jeunes exilés à Angers, c'est vous qui le dites. Ces jeunes exilés de Maine-et-Loire ne sont pas reconnus comme étant mineurs par le conseil départemental, d'où l'emploi de l'expression « jeune exilé » plutôt que « mineur isolé étranger ». À cause de ce vide juridique, ils ne peuvent bénéficier d'aucun droit ni de prise en charge par les pouvoirs publics. C'est là qu'Asile et Partage intervient. Qui sont les jeunes que l'association accompagne alors ?
Alors, dans les 43 jeunes que vous citez, c'est des jeunes scolarisés. Après, on en accompagne d'autres, mais c'est vrai que c'est surtout ces 43-là. Alors, c'est des jeunes majoritairement d'Afrique de l'Ouest pour une grande partie. Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Cameroun. Et il y a aussi quelques jeunes plus récemment d'Afghanistan et Pakistan. Et c'est des jeunes qui arrivent entre 15 et 17 ans. Et là, en fait, comme ça fait quand même un moment qu'on les accompagne, c'est vrai que là, ils sont pour beaucoup maintenant majeurs. Voilà, c'est majoritairement des garçons. Enfin, de toute façon, en fait, ce public-là, il y a que 5% à peu près de filles, en fait. Donc, c'est représentatif de ce qu'on accompagne aussi. C'est surtout des garçons.
Et comment vous l'expliquez qu'il y ait que si peu de filles ?
Je pense que les routes migratoires sont tellement dangereuses que les jeunes filles prennent moins le risque que les garçons, tout simplement. Je pense. Hein.
Et comment Asile et Partage prend contact avec ces jeunes exilés ou comment ces jeunes prennent-ils contact avec la secrétaire ?
En fait, Asile et Partage en fait partie d'une permanence juridique au Secours catholique qui a lieu chaque mardi après-midi avec du coup un salarié du Secours catholique, notre asso où on est deux avec Béatrice à y aller, et la Ligue des droits de l'homme. Et en fait, le Secours catholique étant dans la même rue que le conseil départemental, c'est tout simplement le conseil départemental qui, en mettant les jeunes dehors, leur conseille de venir au Secours catholique. Donc en fait, on les rencontre là, et c'est à partir de cette permanence souvent que voilà, on voit en fait les besoins des jeunes et qu'on prend contact avec eux et qu'on reste en contact avec eux.
C'est quand même assez particulier de se rendre compte que c'est le conseil départemental qui les renvoie vers vous.
Oui, ça les arrange, je pense, de pouvoir les sortir en donnant une adresse où aller.
Et donc l'association accueille ces jeunes exilés dans ce qu'elle appelle une maison réquisitionnée aussi avec le collectif de soutien aux sans-papiers. Comment y accompagnez-vous ces jeunes au quotidien ?
Alors en fait, dans la maison, ouais, dite la Vendange, il y a eu pendant longtemps une vingtaine de jeunes, voire 25 à certains moments. Là, ils sont plutôt une quinzaine. Donc en fait, il y a ces jeunes-là et après il y a d'autres jeunes dont je parlerai après. Donc ceux-là, en fait, il y a tout un travail assez incroyable qui s'est mis en place avec les bénévoles et d'autres assos. En fait, sur toute la question alimentaire, deux fois par semaine, une partie de nos bénévoles en fait se rendent au Resto du Cœur, Secours Populaire et à la Banque Alimentaire chercher différents colis en fait. On les ramène, enfin ils sont ramenés directement dans le squat. Et en fait, après, c'est une maison, donc les jeunes ont une cuisine, qui est d'ailleurs en train d'être refaite là par d'autres bénévoles d'un autre collectif. Puis voilà, ils sont chacun à plusieurs dans des chambres. C'est pas du grand luxe, mais ils ont un toit et c'est chouette ce qui est ça, quoi.
Et comment se passe la distribution avec les bénévoles ? Comment est-ce que vous organisez ? Vous avez dit que deux fois par semaine, vous alliez au Resto du Cœur. Comment se fait le contact aussi avec les jeunes ?
Bah, y a un planning où du coup donc chaque bénévole s'inscrit pour y aller en véhicule parce que c'est des assez gros ravitaillements. Et ensuite, alors les jeunes, ils sont au squat quasi tous scolarisés. Donc c'est vrai qu'à part pendant les vacances, les jeunes ne sont pas vraiment forcément là quand les ravitaillements arrivent. Mais c'est posé dans la cuisine et puis après, voilà, ils sont autonomes en fait. Ils se font à manger avec ce qui est amené. Et l'association, on fait des compléments en fait. Enfin, on leur donne de l'argent pour faire des courses, pour compléter ça. Mais c'est, sans ces associations-là, ce serait impossible. Enfin, c'est vraiment un super partenariat.
Et comment ça se passe pour les jeunes qui ne sont pas scolarisés du coup ?
Alors en fait, ça c'était un très très gros travail de l'asso. Quand moi je suis arrivée il y a 3 ans et demi, il n'y avait aucun jeune scolarisé dans cette maison. Et du coup, ça a été une ouverture avec les établissements privés d'abord, qui en fait ont joué le jeu en disant nous on s'en fiche qu'ils ne soient pas pris en charge par le département. Et donc ils ont ouvert leurs portes progressivement d'abord dans des collèges, et du coup grâce au fait d'être en troisième, les jeunes ont pu arriver du coup ensuite par les affectations scolaires en établissement supérieur, enfin en lycée professionnel. Donc là maintenant ils sont quasi tous scolarisés en fait, donc c'est super pour eux. C'est beaucoup moins glauque qu'avant dans cette maison quoi.
Parce qu'à l'origine, les jeunes qui étaient dans cette maison, ils n'étaient pas scolarisés, non. Donc c'est vous qui les avez accompagnés, ce qui fait que maintenant ils sont...
Non, parce qu'en fait, il faut savoir que les établissements publics, depuis fin 2016, ne veulent pas de mineurs non reconnus par le département, ils ne les acceptent pas. Donc il a fallu passer par le privé, et ensuite avec les affectations, de fait, on a réussi un peu à contourner, mais voilà.
Et comment est-ce que vous les avez accompagnés dans leur choix de formation professionnelle?
En fait, les jeunes, ils s'orientent un peu d'eux-mêmes vers des formations pro, aussi parce que c'est un peu horrible, hein, mais c'est la condition pour un titre de séjour, c'est des formations professionnelles qu'il faut. Et puis, je pense que ça leur correspond aussi parce que c'est des activités manuelles et aussi des études un peu courtes qui vont leur permettre d'être plus vite autonomes aussi. Après, il y en a qui ont des envies, hein, de BTS, etc. Et je trouve qu'on casse un peu les ambitions de ces jeunes en leur disant non, il faut rester dans du professionnel, c'est ça que la préfecture demande, des métiers en tension comme ça. Ils sont beaucoup dans le bâtiment, la restauration, l'aide à la personne, la mode pour certains. Et en fait, on a mis en place un système de référence scolaire pour essayer de faire un peu comme s'ils étaient pris en charge. On est plusieurs bénévoles en fait, et après il y a des personnes hors asso aussi qui ont pris en référence un jeune en fait pour essayer de faire du lien avec le lycée, pour pas qu'il soit tout seul en fait face à son lycée.
Et par ailleurs aussi, en ce moment, vous êtes en pleine recherche de familles d'accueil solidaires avec l'association.
Oui, parce que du coup, il y a donc ce bâtiment-là, mais qui ne peut pas accueillir, bien sûr, les 43 jeunes qu'on accompagne. Et puis, on en rencontre, en fait, quasi tous les mardis. Enfin, mardi dernier, il y avait 3 jeunes refusés par le département. Enfin, voilà. Donc, effectivement, on cherche des familles. Il y a déjà une 15aine de jeunes qui sont dans des familles. Et on en cherche toujours aussi pour permettre, en fait, d'avoir, par exemple, 2 ou 3 familles pour un même jeune, pour faire du relais. Ça peut être, dans le temps, je pense, plus facile pour les gens de se lancer dans cette expérience-là. Et pour les jeunes, ça leur fait voir différents modes de vie aussi. C'est sympa.
Et puis aussi, d'autant plus que c'est important, je suppose, d'avoir une adresse de domicile pour faire les démarches administratives.
Bah, au-delà de ça, en fait, c'est que comment on va à l'école quand on est à la rue, quoi. Enfin, les jeunes, comment on les fait rester pour voir le juge, pour faire leur démarche, si on leur propose pas un endroit où être, c'est pas possible en fait. Enfin...
Et par rapport au squat, c'est quelque chose que vous souhaitez garder sur la durée ou que vous espérez garder?
Bah oui, parce qu'on n'a pas d'autre solution en fait. C'est la maison des jeunes, quoi, c'est ce qu'ils disent aussi.
Et donc, par rapport aussi à un point de vue juridique, vous travaillez beaucoup avec le Secours catholique de Maine-et-Loire. Comment est-ce que vous faites en fait?
Et ben, du coup, ça part de la permanence dont je parlais tout à l'heure le mardi après-midi. Et donc, quand le jeune est mineur, en fait, on le met en contact avec un avocat. Quand je dis on, c'est le Secours catholique, mais comme on y est, je dis on. Donc, on le met en contact avec un avocat qui va accompagner le jeune voir le juge des enfants. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est essayer de consolider son dossier. Donc, on travaille avec les ambassades en France, par exemple, pour transformer un acte de naissance en une carte consulaire ou un passeport. Enfin bref, solidifier le dossier pour avoir une chance que cette fois, ça passe devant le juge. Et en ce moment, il y a aussi toutes les... on remplit tous les formulaires de demande de titre de séjour pour les jeunes qu'on accompagne déjà depuis un plus grand moment et qui sont maintenant diplômés ou bientôt et qui ont eu des patrons en fait qui veulent les soutenir pour trouver un travail, enfin pour les embaucher en fait et être régularisés.
Et justement par rapport à ces jeunes, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de l'un d'entre eux?
Je ne sais pas lequel choisir, ils sont tous très intéressants à discuter. Je dirais, là tout dernièrement en fait, on a fait plusieurs demandes de titre de séjour. Je pense à un jeune, je ne dirais pas le prénom, je pense que ce n'est pas utile, c'est un jeune guinéen qui a, en fait quand moi je l'ai connu, donc c'est un des premiers à être arrivé dans le squat. Quand je l'ai connu, c'est vrai qu'il parlait pas énormément français, il avait pas été beaucoup à l'école et du coup il a eu là 2 CAP depuis, un CAP en service et un CAP en cuisine. L'école où il a été nous a dit qu'il était incroyable, enfin vraiment il se demandait s'il avait pas déjà vraiment tenu un plateau, accueilli des gens, enfin voilà, c'était très très chouette, ils l'ont beaucoup soutenu. Et de ses stages, etc., il a trouvé plein de patrons, en fait, qui avaient envie de le soutenir. Et il a fini, là, par avoir son titre de séjour. Et maintenant, il travaille. Et c'est super chouette. Enfin, c'est des belles victoires pour eux comme pour nous, en fait.
Et il a quel âge, maintenant?
Il doit avoir 19 ans ou 20 ans. Ouais.
Et par rapport à l'accompagnement justement à l'apprentissage de la langue, est-ce que vous êtes aussi là-dessus ?
Ouais, il y a ça, c'est le volet un peu, j'ai envie de dire, le plus facile à trouver, c'est des bénévoles qui ont envie de faire du soutien scolaire, des cours de français. Et les jeunes sont assez demandeurs. Après, c'est vrai qu'avec le rythme de l'école, c'est pas non plus possible tout le temps. Mais oui, ça, on trouve facilement des bénévoles qui ont envie d'aider sur ce volet-là. Mais on en cherche aussi toujours, si ça intéresse.
Et vous, est-ce que vous pourriez parler un peu plus de votre expérience personnelle au sein de l'association ?
En fait, moi, je faisais mes études quand je suis arrivée sur Angers il y a 5 ans. Je m'ennuyais un petit peu, je dirais, dans le milieu dans lequel j'étais. Et j'ai rencontré un ancien bénévole de l'asso qui avait mon âge, qui m'a dit « Viens voir, je fais partie d'une asso qui accompagne des MNA, des mineurs non accompagnés ». Je ne connaissais pas du tout ce public. Et j'ai eu un vrai coup de cœur parce que je trouve que c'est des jeunes qui ont une résilience et une joie de vivre qui est vraiment super agréable. Enfin, il y a plein de moments où c'est aussi très difficile de les accompagner, dans le sens où il y a beaucoup de sensations, enfin, de sentiments d'injustice dans plein de moments. Je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai dû dire à un jeune que tous les recours étaient finis et que ça marchait pas. Enfin, c'était très dur, ça renvoie des... Il y a des jeunes qui renvoient des vraies questions hyper tristes, quoi. Si du coup j'ai pas cet âge-là, je suis pas le fils de ma mère, donc je suis qui ? Enfin, des vraies questions identitaires importantes. Mais après, il y a aussi plein de moments de joie, enfin, de réussir à les accompagner dans le temps, de voir qu'ils sont hyper persévérants. Enfin, je trouve que c'est une vraie leçon de vie, ces jeunes-là. Et c'est aussi ça qui a fait que j'ai eu envie de faire la formation que je fais. Là, je suis en formation d'éducatrice spécialisée. Enfin, je pense vraiment qu'ils nous apportent autant que nous, on essaie de leur apporter, voire même plus. Enfin, c'est très, très riche.
Vous devenez presque amis, en fait, au final.
Parce que moi, je suis assez jeune, je dirais plus que ça devient un peu, pour certains, comme des petits frères qu'on a envie d'accompagner jusqu'à ce que ça soit possible, quoi. Amis, je sais pas, mais ouais, une petite famille.
Et par rapport à... Alors, du coup... Pardon, excusez-moi une seconde. Et du coup, vous êtes nombreux dans l'association en ce moment ?
On est une douzaine, quinzaine à être... en fait, on a des réunions hebdomadaires et ensuite, chacun se répartit un peu dans les rôles. Enfin, voilà, il y a la question de l'alimentation, comme je disais, il y a l'accompagnement plus quotidien. Enfin, chacun a un peu ses missions. Toute la partie scolaire, on a créé tout récemment une partie vraiment commission scolarité parce que c'est le plus gros volet, en fait, enfin, de réussir à être des bons partenaires avec les lycées, de trouver des nouveaux établissements pour d'autres jeunes. Il y a la question des assurances scolaires, des transports. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à gérer et je trouve qu'on s'en sort quand même plutôt bien pour des bénévoles non professionnels et surtout avec presque zéro moyen, quoi.
Bien, merci beaucoup, Dorine. Je rappelle que vous êtes bénévole à l'association Asile et Partage. Merci pour être venue parler de votre action au quotidien pour aider les jeunes exilés d'Angers. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes en pleine recherche de familles d'accueil solidaires. Alors, chers auditeurs, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter Asile et Partage via leur adresse mail asileetpartage@gmail.com. Vous pouvez retrouver le lien du formulaire à remplir pour devenir hébergeur solidaire sur leur page Facebook Asile et Partage Angers. Et je vous propose à présent de poursuivre en musique avec, juste avant la chronique de Germain, Sirène de Bandicoot. Beneath the darkness of the day, like a siren in the night, she floats on the sea. De retour dans l'Optimiste sur le 103 FM, on continue avec Germain pour sa chronique humoristique des Folies Angevines.
Oui, bonsoir Radio Campus, merci de m'accueillir. Alors moi, la dernière fois que je suis venu, c'était en janvier, et je vous avais parlé de la galette des rois. Aujourd'hui, dès lors que nous sommes en avril, je vous propose de vous parler de Noël. Voilà. Non, je blague, bien sûr, je vais vous parler de Pâques. Alors Pâques, ce n'est pas la politique agricole commune, ce n'est pas non plus le Pâques de 6 ou de 12 que je m'envoie le matin pour oublier que mes parents sont frères et sœurs. Pâques, c'est une cérémonie religieuse qui commémore la résurrection du Christ. Là, je vous vois venir. Mais Germain, si on célèbre la résurrection de Jésus, alors pourquoi on mange du chocolat? Eh bien, je ne sais pas. Voilà, merci de m'avoir écouté. Allez, je veux bien quand même vous proposer une analyse. Pâques, c'est avant tout une histoire de cloche. Bon, c'est pas l'objet le plus commun du monde. On entend rarement « As-tu pensé à prendre ta cloche ?» Mais gardons l'esprit ouvert. C'est une histoire avec une cloche pour personnage principal, admettons. Cette cloche doit remplir une mission. Et pour ce faire, elle se déplace. Mais comment se déplace-t-elle, me demanderez-vous? On a envie de répondre, de prime abord, à cloche-pied. Mais non. Comme toutes les cloches, celle-ci se déplace dans le ciel. Elle vole. Nous avons donc ici affaire à ce que j'appelle, et j'ai un petit peu eu du mal à trouver le nom, une cloche qui vole. Voilà. Admettons. La cloche qui vole a une mission. Elle doit transporter des œufs. Ah, attendez, je vérifie que je lis bien le bon papier, parce que je ne sais pas du tout d'où ils sortent ces œufs. Ils sortent d'où ces œufs dans cette histoire? Bon, tant pis, admettons. J'ai vérifié, il n'y a pas de trou sur une cloche. Donc elle ne peut pas elle-même expulser les œufs. J'en déduis qu'elle récupère ses œufs auprès d'une espèce ovipare. Pour les besoins de notre enquête et dans un souci de simplification de la narration, nous partirons du postulat que l'ovipare en question est une poule. Admettons. Une cloche qui vole transporte des œufs récupérés auprès d'une poule. Mais pas n'importe quels œufs, et donc pas n'importe quelle poule. Ce serait trop facile. Les œufs sont en chocolat. Nous avons donc affaire à une poule qui est engagée dans un business d'import-export avec une cloche qui vole. Et cette poule pond des œufs en chocolat. Elle se nourrit sûrement exclusivement de fèves de cacao. L'étau se resserre. Appelons cette ovipare une cacao-poule. J'avais d'autres noms à disposition. J'aurais pu opter pour chocolate chicken, plus américain, ou choco-volaille, plus enfantin. J'ai opté pour cacao-poule. La cloche qui vole et qui se fournit en œufs en chocolat auprès d'une cacao-poule n'est pas seule. Non, on parle bien des cloches de Pâques. C'est donc un animal grégaire qui évolue en troupeau. Un troupeau de cloches qui volent distributrice d'œufs de cacao-poules. On touche au but. Admettons. Qui dit troupeau de cloches qui volent distributrice d'œufs de cacao-poules dit berger, qui guide les cloches qui volent distributrice d'œufs de cacao-poules. Mais quel type de bâton utilise-t-il? A-t-il son diplôme de clochard? Le berger s'appelle-t-il Michel? Tant de mystères qui demeurent, admettons. Comment se fait-il que les œufs distribués par les cloches qui volent distributrices d'œufs de cacao-poules ne se brisent pas en touchant le sol? Ils sont pourtant lâchés de très haut, par des cloches qui volent, je le rappelle, et qui distribuent des œufs de cacao-poules. Il est difficile de trouver un sens à toute cette histoire. Aucune approche rationnelle ne pourra solutionner nos interrogations, car le cœur a ses raisons que la raison ignore, et le temps a ses saisons où il fait froid dehors. Cette deuxième phrase est de moi. Pour la recherche de la vérité, je vais malheureusement devoir vous laisser vous débrouiller, parce que moi, dans le fond, j'ai pas que ça à faire. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Merci beaucoup Germain. Donc je rappelle que tu participes à l'atelier de stand-up des Folies Angevines et que c'est dans ce cadre que tu es venu nous présenter cette super chronique sur Pâques. Donc on continue avec le reportage de Sophia au Héron Carré sur la Witch Out Production maintenant.
Witch Out Production est une association angevine. Selon Maya, l'une de ses deux fondatrices, Witch Out pourrait à peu près se traduire par « Sortez les sorcières ». L'objectif de cette jeune association, donner de la visibilité à celles et ceux qu'on considère les sorcières de notre époque. Les personnes discriminées en raison de leur genre, leur appartenance ethnique ou leur apparence physique. Mélodie et Maya, toutes les deux issues du milieu de l'audiovisuel, ont alors voulu promouvoir l'inclusivité et la diversité autour de l'art à travers des événements et la production d'un documentaire. Mélodie revient sur la création de Witch Out.
Le projet, c'était donc de créer des supports artistiques autour de la question du genre, de la sensibilisation aux discriminations pour les femmes, les minorités de genre et les handis. On a tourné un long métrage qui va se monter courant mai et qui sortira certainement en septembre prochain. On a choisi donc de faire des événements pour lever des fonds et promouvoir aussi les artistes locaux. Et donc là, on est sur un événement qui s'appelle Witch House 2. Ce sont des événements qui regroupent plusieurs personnes et associations. Donc là sont présents et présentes Ardent Club, qui est un collectif d'artisanes locales. Et elles présentent leur travail en pluridisciplinarité artistique. Et on a également un village associatif où sont présentes l'association Babes Day, le collectif des Lucioles. On a une association pour la solidarité qui s'appelle Asile et Partage. Le 122 et Radio Campus nous soutiennent également sur cet événement. Vraiment, l'intention, c'est de se solidariser autour de la culture et de la diversité et de se fédérer, de se rencontrer, de passer un moment ensemble.
La Witch House 1 était justement en non-mixité parce que c'était une vraie volonté de tester ce qu'était la non-mixité, de tester les limites de ce qu'était la non-mixité. Donc là, ce deuxième événement n'est pas en non-mixité parce que justement, grâce aux questionnements qu'on s'est posés par le long-métrage documentaire, on a réalisé que la non-mixité, c'était un questionnement perpétuel en fait, de remise en question des espaces, des lieux, et donc autant pour la première Witch House ça avait sens, autant là on avait envie de faire quelque chose de plus ouvert et de plus large en fédérant les associations.
Personnellement, en tant que femme technicienne, effectivement, j'ai dû me battre beaucoup pour en arriver à aujourd'hui à réussir ma vie professionnelle. Donc effectivement, je trouve ça important au travers d'événements comme celui-là de mettre en valeur les femmes, les minorités de genre ainsi que les handicapés pour qu'ils puissent avoir l'équité sociétale de la vie, quoi, tout simplement. En fait, il n'y a pas d'équité dans notre société. On est dans une société patriarcale, dominée par les hommes, et donc nécessaire. Toutes les personnes minorisées ont du mal à prendre leur place dans cette société, et donc en créant des espaces comme les Witch House ou en créant des documentaires, ça fait d'air et ça fait aussi se lever d'autres personnes qui n'arrivent pas à prendre la parole ou qui n'arrivent pas à sortir de la place de minorité qu'elles ont.
Le documentaire, c'est une suite de témoignages personnels qui se recoupent ensuite sur un échange entre les personnes qu'on interviewe pour en fait présenter une vision générale, lancer des débats globaux, mais aussi pouvoir s'attacher à chaque personne et se sentir concerné par le récit et le vécu de chaque personne. C'est des récits de vie qui n'ont pas rapport avec le milieu du spectacle. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'art, ou en tout cas dans la création, parce que c'est des milieux que nous, on souhaite représenter. On le voit beaucoup avec le cis gaze, le male gaze, le regard masculin. C'est qu'on est sous-représenté, et quand on est représenté, c'est souvent mal, ou en tout cas toujours sous un prisme qui est négatif, nous, de notre point de vue. Donc oui, on veut se réapproprier ces espaces visuels, et donc on se les réapproprie par la technique, par la réalisation, par le scénario, et on utilise le maximum de biais, et c'est en ça que la non-mixité nous aidait, c'est que du coup par la non-mixité on peut exiger une représentation au lieu de se contenter de l'attendre un peu par hasard. Il faut décider de vouloir représenter.
Si vous souhaitez rejoindre Witch Out Productions ou en savoir plus sur les prochains événements et projets, rendez-vous sur la page Instagram Witch Out Prod.
Murmure, le kit sonore des territoires.
L'optimiste est de retour au port de Radio Campus Angers et c'est sur ce reportage au Héron Carré sur la Witch Out Production que nous terminons notre itinéraire. Je remercie bien sûr notre reporter Sophia et aussi Dorine, bénévole à l'association Asile et Partage qui accompagne les jeunes exilés d'Angers, notamment face aux difficultés de logement. Si vous souhaitez aider ces jeunes, vous pouvez contacter l'asso via l'adresse mail asileetpartage@gmail.com pour devenir famille d'accueil solidaire. Merci aussi à Germain pour sa chronique humoristique des folies angevines. Et bonne soirée à tous sur le 103 FM.
pouvez réécouter l'émission sur le www.radiocampusangers.com.